Stop Arena présente Vue du banc avec Florent Tonuti, Raphaël Cosmidis et Christophe Cuchely.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 16e épisode de la saison 9 de Vue du banc. Un lancement un peu gai pour une soirée assez particulière pour le club parisien, le Paris Saint-Germain qui a été éliminé par le Real Madrid après sa défaite 3-1, un but de Mbappé puis des buts de Benzema x3 à la 61e, 76e, 78e. Mais de tout ça, on va longuement reparler. On verra de quoi on parle ensuite, peut-être de Lyon, peut-être des autres matchs de Ligue des Champions, mais ça sera notre focus principal, ce match assez impressionnant, assez important quand même pour l'histoire parisienne, ce match du PSG face au Real Madrid. Mes deux invités, ce ne sont pas des invités d'ailleurs, qui sont mes compères, Florent Tonuti, salut Florent.
Salut Christophe.
Et Raphaël Cosmidis, bonjour Raphaël.
Salut Christophe, salut Flo.
Merci de m'avoir suivi dans ce lancement où j'ai cru trois fois me prendre les pieds dans le tapis, mais finalement j'ai réussi à en venir à bout. C'est vrai que c'est quand même une soirée assez marquante, assez particulière, parce que qu'on soit fan de Paris ou pas, toi Raphaël, tu l'es un petit peu, puisque t'es originaire et que tu vis encore à Paris, enfin juste à côté. Florent et moi, on est plus des observateurs, mais malgré tout, Florent, quand même un match qui... quand on est neutre, fait passer beaucoup d'émotions, en fait, parce que c'est quand même un match un peu, je sais pas si on peut dire hors du temps, mais il y a quand même un côté assez irrationnel dans ce qu'on vient de voir.
Ah oui, totalement irrationnel, oui, parce que t'as, on va dire, une première heure de jeu très rationnelle, parce que t'es dans, on va rentrer dans le détail après, mais t'es dans une redite de pas mal de choses qu'on a vues à l'aller, avec un Real qui fait plus, et qui met plus d'intensité, qui presse plus, et qui du coup... ouvre des situations que Paris n'avait pas eu à l'aller, ou en tout cas pas autant, avec Mbappé dans la profondeur. Et donc, pendant, je pense que jusqu'à l'heure de jeu, tu pouvais presque prédire ce qu'on a vu. Tu pouvais presque l'annoncer après avoir vu le match aller et imaginer ce que pouvait faire le Real pour essayer de provoquer sa chance ou d'embêter Paris. Et puis, il y a cette 61e minute de jeu, je crois. C'est la 61e, l'erreur de Donnarumma.
C'est ça.
Et là, le match bascule dans quelque chose qui ne peut plus vraiment être analysé. Et du coup, c'est vrai que pour nous, c'était reposant, en fait, la dernière demi-heure, quasiment, même s'il se passait beaucoup de choses, etc. Mais en tant qu'observateur neutre, comme tu le disais, Christophe, puisque c'est notre cas tous les deux, bah, la dernière demi-heure, on a plus apprécié le spectacle dans le sens où il n'y avait plus grand-chose à analyser. Tu pouvais juste remarquer que certains joueurs avaient disparu, que Paris faisait des choses qu'il n'aurait peut-être plus dû faire. On en reparlera le moment venu. Mais oui, un match où, pendant une heure, tout est normal et tout est utile pour un vu du banc. Pour la dernière demi-heure, on verra, on va s'arrêter dessus, mais il y aura beaucoup moins de fond, je pense.
C'est vrai que Raphaël, sur la fin, il y a un petit côté Marvel ou Expendables où au final, bah, tu regardes la bagarre, quoi. Tu prends des pop-corns ou tu subis si t'as une implication émotionnelle ou tu jubiles si t'es côté madrilène. Mais c'est vrai que, alors, on va forcément arriver sur cette dernière demi-heure. D'ailleurs, tu le tweets juste après le 1 partout. Donc à ce moment-là, Paris n'est pas encore sorti, loin de là. Mais l'influence du but sur le match, c'est vrai qu'on va être obligé de vraiment scinder l'émission en deux, à la fois dire du bien de Paris sur finalement ce qui représente deux tiers du match, et ensuite s'interroger sur ce qui a pu se passer, même si on sait que là, ça nous échappe un petit peu, parce que c'est des choses qui sont propres au football de haut niveau, que nous, on va jamais effleurer dans nos carrières.
Ouais, c'est vrai qu'on a souvent dit dans Vue du banc que la partie tactique n'était qu'une facette du foot et n'englobait pas tout, et ne pouvait pas tout expliquer, et pour le coup, je pense que ça a rarement été aussi vrai. Alors ça a aussi changé tactiquement le match, mais ça a changé en partant des émotions et de faits de match qui ne sont pas survenus, en tout cas la plupart du temps, sur des différences faites tactiquement, ou collectivement. Et c'est pour ça que dans l'analyse du match, je pense qu'il faut avoir pas mal de recul pour se dire ok, ces choses là se sont passées, mais de quoi elles découlent. Et autant il y a des choses qui ont découlé, je pense que les 60 premières minutes découlent des plans de jeu des deux équipes et du niveau collectif de ce que proposent les deux équipes. Autant les 30 dernières minutes, donc à partir de Donnarumma et de Benzema qui marquent son premier but, découlent de bien d'autres choses. Et quelque part, cette donnée-là, on l'avait un peu vécue déjà plusieurs fois avec le PSG, même si on fait les comparaisons, parce qu'elles vont forcément tomber. Manchester 2019, il y a quand même beaucoup moins d'occasions pour Manchester dans mon souvenir. C'est-à-dire que c'est vraiment, ils sont très très efficaces sur les rares occasions qui peuvent leur permettre de faire la remontée. Parce qu'il y a une erreur de Buffon, je crois, sur une frappe de Lukaku.
Oui. Oui, c'est ça. Erreur de Buffon et la main de Kimpembe. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose entre-temps.
Main controversée de Kimpembe qui ne regarde même pas le ballon. Autant là, le temps faible qui vient est un vrai temps faible. Ce n'est pas juste une malchance, il y a deux tirs en face et on prend deux buts. Tu as un énorme temps faible, mais qui vient de choses pas forcément tactiques. Alors le Barça 2017, c'est autre chose. C'est un match que tu n'avais pas du tout maîtrisé. Et tu as souffert pendant 90 minutes. Là, tu souffres pendant 25 minutes et ça suffit à te faire couler. Mais c'est, je dois dire quand même que la création de vue du banc coïncide avec l'histoire dramatique du PSG en Coupe d'Europe. Hein. On est venu en 2016, et l'été 2016 pour l'Euro 2016, et c'est la saison où le PSG connaît le 6-1 contre le Barça. Et depuis tous les 2-3 ans, on a des événements assez négatifs. Alors, on a quand même eu le Final 8 où ils sont allés en finale. Ça, c'était positif. Il y a eu la 2000 l'an dernier. Mais on a quand même voilà, on est né la saison où les drames européens du PSG sont nés, en tout cas cette version là, cette version moderne du PSG.
Est-ce que tu penses qu'on devra mourir pour que le PSG
c'est une bonne question. Écoute, et ben on verra. On verra bientôt peut-être, Christophe. Je ne sais pas.
Mais en tout cas, juste pour alors c'est pas corriger mais donner mon sentiment, c'est vrai que tu parlais du 6-1 en gros, le PSG qui a subi 90 minutes, j'ai quand même le souvenir contre le but de Cavani à la 62e et oui. Le but de Neymar à la 88e, c'est plutôt en maîtrise. Après, par contre, c'est vrai que la première heure, t'y arrives pas.
Et ouais. T'as pas les occasions que t'as eu là, je trouve, tu vois, Christophe. T'as pas eu au Camp Nou 3, 4, 5 occasions de marquer, dans mon souvenir en tout cas. Le but de Cavani te sort d'un temps faible et après t'as une espèce de pause. Yeah.
Il y a celle de Di Maria aussi. Il y a Di Maria qui a un truc avec Mascherano qui le tacle là.
Ouais, mais t'es quand même très souvent dans ton camp, quoi, sur l'ensemble.
Oui, oui, non, ça oui, ça bien sûr.
Je vais donner les compositions d'équipe, qu'on sache un petit peu de quoi on parle. Côté madrilène, Courtois dans les buts, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho en défense, Valverde, Kroos, Modric au milieu, Asensio, Benzema, Vinicius devant, et on le fait pas toujours, mais je donne les changements. Camavinga remplace Kroos à la 57e, même moment où Rodrigo remplace Asensio, et à la 66e, Lucas Vázquez remplace Carvajal. À chaque fois, c'est du poste pour poste. Côté parisien, on est sur le même système, et d'ailleurs la même approche, avec un espèce de 7+3 malgré tout sur certaines phases. Donnarumma dans les buts, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes derrière, Danilo, Paredes, Verratti au milieu, Messi, Neymar, Mbappé devant, et les entrées de Gueye pour Paredes à la 71e, de Di Maria pour Danilo à la 80e, et de Draxler pour Hakimi à la 88e, le temps de se prendre une ligne droite par Vinicius. Vinicius qui était crampé une minute après et Draxler qui venait de rentrer. Bon, bah, malgré tout, il y a quand même des composantes physiques qui ne peuvent pas être totalement influencées par la fatigue. Florent, on va commencer par le début. Par le début de match, je le disais, un petit côté 7+3 chez les deux équipes, mais il y a quand même une volonté, à un moment, du Real de presser, et c'est là-dessus qu'on va voir que Paris est quand même capable de bien sortir des ballons sous pression, et que, en gros, le Real savait un peu presser, avait la volonté de faire ça, récupérer 2-3 bons ballons sur des mauvaises relances de Marquinhos, mais sinon, il n'y avait pas vraiment de bloc médian, en fait, c'était soit tu pressais, soit tu te repliais, l'entre-deux était quand même pas très bien maîtrisé.
Ouais, il n'était pas très maîtrisé parce que l'entre-deux, généralement, fallait courir très vite vers ton but pour essayer de rattraper une transition et du coup, tu te retrouvais très bas. Mais oui, non, le Real a essayé de presser. Bah, à l'aller, c'était ce qui s'était joué un petit peu, c'était que Paris avait largement dominé son sujet parce que ils avaient réussi à aller chercher le Real plus haut que le Real n'avait réussi ou ne serait-ce que tenté d'aller chercher Paris. Donc là, oui, le Real a essayé d'aller chercher très haut. Je pense que si c'était pas du one-to-one, on n'en était pas très loin sur certaines phases de jeu. Et du coup, c'était on retrouvait un match où la capacité de Paris à sortir des ballons sous pression devenait capitale et où un Verratti dans les premières minutes, dans la première mi-temps, fait une excellente première mi-temps à ce niveau-là. T'as aussi Neymar qui décroche très bas, parfois sans être très efficace. Il perd 2-3 ballons, je crois, dans cette zone-là où il descend très bas, il se fait agresser par... Bon, je ne sais pas qui d'ailleurs, un des milieux qui lui sortait dans le dos à ce moment-là. Je crois même que Carvajal est allé le chercher à l'intérieur de temps en temps. Mais voilà, oui, c'était capacité, pour faire simple, capacité de Paris à sortir proprement de ses 30 mètres, de ses 40 mètres, à trouver Messi ou Neymar qui lance ensuite Mbappé dans la profondeur. Et Mbappé qui doit prendre le dessus sur les défenseurs ou partir dans le dos, c'est exactement ce qui se passe sur le but. Mais oui, c'était une facette du match où le Real était attendu après totalement passé à côté de son sujet à l'aller ils ont été présents de mon point de vue. En tout cas, j'ai du mal à imaginer un Real qui aurait pu faire mieux que ce qu'ils ont fait dans ce domaine-là sur les premières minutes. Il faudrait que je revoie le match pour peut-être voir s'il y avait des choses à mieux faire. Mais
pas avec les joueurs qu'on démarrait, en tout cas. Faut...
Oui, non, je parlais oui, avec cette équipe-là, quoi, avec le 11 qu'on a vu. Après, tout simplement, Paris était supérieur. De toute façon, on va le dire, hein, sur la première heure de jeu, Paris est supérieur. Et dans ce domaine-là, bah, tu revois ce qui fait la force du PSG cette année. Sur, dès qu'ils se font presser, c'est que bah, t'as deux rampes de lancement possibles avec Messi et Neymar, et puis t'as Mbappé qui fait le reste, quoi.
Raphaël, alors sans faire des donneurs de leçons, mais est-ce qu'à ce moment-là, l'une des deux équipes peut faire mieux ? Est-ce que t'en veux, entre guillemets, à Paris de ne pas avoir assez insisté sur certaines choses parce que t'aurais pu avoir 2-3 buts d'avance et plier la chose ? Ou au contraire, au Real, de se dire, ouais, bon, genre votre bloc médian aurait pu être meilleur ou autre, et, ou alors certaines phases de possession, mine de rien, qui étaient quand même assez stériles, ou globalement, il y a un moment où t'es rattrapé, comme disait Francisco Filio, la tactique, c'est la technique, et t'es quand même rattrapé par des qualités techniques qui pouvaient être meilleures d'un côté que de l'autre.
Ouais. Comme il le dit, la tactique, c'est l'émanation de la technique. Non, je trouve que... Alors, le Real avait un bloc bas qui était assez cohérent, qui était assez organisé, c'était plus sur les séquences où Paris arrivait à ressortir proprement face à leur pressing que Paris a réussi à se créer des occasions. Donc là-dessus, tu peux pas franchement en demander plus, surtout avec le milieu Kroos, Modric et l'absence de Casemiro. Valverde était là pour courir, mais c'était quand même assez fragile à l'intérieur du jeu, et on a souvent vu Messi et Neymar s'intercaler assez intelligemment entre les lignes. Et Paris, je trouve, a été déjà très fort sur ses sorties sous pression sur la première heure de jeu. Il y a vraiment eu des super séquences, même de la part de joueurs qui sont pas forcément habitués à s'impliquer là-dedans. Danilo, par exemple, a été très juste sur ses sorties de balle là pendant 50-60 minutes. C'était assez propre derrière. Il y avait vraiment une maîtrise. Verratti, je trouve, fait une première heure exceptionnelle dans les sorties de balle, comme souvent d'ailleurs, mais vraiment très très juste dans ses fins de corps, dans ses orientations sur les prises de balle. Il a vraiment été très bon. Neymar et Messi ont réussi à combiner et à tirer du monde, à servir de force d'attraction pour ensuite libérer Mbappé. D'ailleurs, Neymar claque une belle passe D sur le but de Mbappé, donc c'était plutôt bien ce que faisait Paris, en fait, tactiquement, tu les sentais pas perdus. Les seules occasions du Real viennent sur des ballons aériens où Benzema domine ses adversaires directs. Il y a un centre de Kroos,
il y a une autre... tir de Benz aussi,
ouais, mais il y a hors tir jeu, de Benzema. Mais il y a hors-jeu au départ de l'action, donc je compte pas vraiment, en fait, parce que si tu...
Ah, d'accord, je m'en rappelle plus du
début. Et les Parisiens réclament le hors-jeu, il est donné juste après le tir de Benzema, qui est détourné par Donnarumma, c'est celui-là dont tu parles, Flo?
Ouais, la frappe lointain, entrée de surface côté gauche.
Il
ouais.
Y a un énorme hors-jeu au départ, dans mon souvenir, en fait, et il le siffle après. Et il y a une autre tête de Benzema, je sais plus à quel moment, peut-être qu'elle est en deuxième, je crois qu'elle est en deuxième, l'autre tête de Benzema, où il passe derrière Marquinhos et il arrive à claquer sa tête. Donc c'était surtout dans ce domaine-là que le bloc bas de Paris a souffert, parce que c'était... Alors faut le dire quand même, Christophe, c'était un peu un match des années 80, c'est-à-dire que t'avais deux équipes qui défendaient à 7, voire à 8 parfois, quand un attaquant faisait l'effort parce qu'il sentait que son équipe n'arrivait plus à sortir. Et il y avait quand même deux lignes d'attaque qui étaient très peu impliquées défensivement, ce qui rendait le match assez inédit, en tout cas ces dernières années, sur un autre aspect. C'est qu'en fait, les milieux de terrain, donc Verratti, Paredes, Danilo, ou de l'autre côté, Kroos, Modric, Valverde, pouvaient pas vraiment revenir vers l'arrière, parce que les attaquants étaient un peu en marquage préventif sur les défenseurs, puisqu'ils revenaient pas défendre. Et il y a plusieurs séquences où t'as Verratti, Paredes, ou Nuno Mendes, qui cherchent une solution vers l'arrière, parce qu'ils sont pressés, ou il y a un joueur qui est pas loin d'eux. Et en fait, bah, du coup, Vinicius, Benzema et Asensio étaient pas très loin des centraux. Donc au final, t'avais Verratti et Paredes qui redoublaient de passes. Pareil du côté du Real. Et c'était assez curieux de voir ça. Donc sur ce plan-là du match, qui a duré, ouais, 50-60 minutes, je trouve que Paris l'a beaucoup mieux géré. Et puis après, il y a Donnarumma qui se fait surprendre par Benzema.
Florent, du coup, est-ce que ça te choquait, ce côté... Bah voilà, trois attaquants qui défendent pas ou pas, potentiellement du côté du Real d'ailleurs, parce qu'on peut considérer que c'est un peu le stéréotype qu'on a avec Paris, mais que pas faire défendre Mbappé, ça peut être finalement assez logique, vu ce qu'il met en 1 contre 1, alors que des Benzema, des Vinicius ont tendance à un petit peu plus bosser. En tout cas, bon, je sais pas si j'ai pu le regretter pendant le match, mais je me disais... Quand tu défends pas, au moins, faut essayer d'être ultra efficace de l'autre côté. Et c'est vrai que je me disais, bon, Vinicius, Asensio, Vinicius démarre pas trop mal. Mais Asensio, par exemple, je me dis, c'est pour faire ça, défends un peu plus. Parce que du coup, l'énergie que tu conserves à pas redescendre, elle te sert pas du tout. Parce que de l'autre côté, t'arrives pas du tout à prendre le dessus sur ton adversaire direct.
Ouais, non, ça m'a pas spécialement surpris. C'est vrai qu'on les voyait redescendre quand le temps de jeu de l'adversaire et la possession dans le camp adverse commençaient à s'allonger. Tu voyais petit à petit les mecs revenir dans le bloc défensif assez lentement. Alors ça, d'ailleurs, ça a totalement disparu dans la dernière demi-heure. Ça s'est encore accentué, pour le coup, comme situation. Mais non, ça m'a un peu surpris que Paris soit pas aussi sérieux qu'à l'aller de ce point de vue. Parce que au match aller, il y a un Di Maria qui avait fait énormément de courses, qui s'était beaucoup sacrifié pour le reste de l'équipe. Bon, le retour de Neymar dans l'équipe, on pouvait s'attendre à ce que ça se passe comme ça s'est passé. Mais c'est vrai que Paris avait à l'aller deux lignes de quatre, en tout cas un Di Maria qui revenait beaucoup plus et qui faisait que Paris avait peut-être un joueur de plus actif en effet derrière ou même au milieu de terrain. Après, ça m'a pas spécialement gêné parce que à partir du moment où tu voyais comment le Real attaquait aussi, je parle du côté parisien là, pour le coup, le non-retour systématique en tout cas des attaquants, quand tu voyais que le Real attaquait, t'avais Vinicius, t'avais Benzema, t'avais Asensio, mais qu'il était très maladroit. Et après, en termes de projection, Carvajal occupait le couloir, mais Nacho montait quasiment pas à gauche. Alaba est monté quelques fois, mais voilà, les dépassements de fonction étaient tellement ponctuels qu'en fait, la défense parisienne, c'était, sur la première heure en tout cas, jamais retrouvée en situation où c'était la panique, à part évidemment, oui, comme vous le disiez, sur les centres aériens, mais dans la surface, sur des infiltrations au sol, j'ai pas souvenir d'un moment où ça a été vraiment la panique, à part dans les premières minutes où Vinicius est très très chaud, et il a fallu quelques temps pour que la défense parisienne s'adapte et mette en place un petit peu les prises à deux, les couvertures, etc. Mais j'ai pas souvenir sinon d'un moment où tu sens oula, ça flotte dans la défense, c'est la panique dans la surface, quoi. À l'exception des centres sur Benzema.
Raphaël, qu'est-ce qu'on peut dire des attaques placées des deux équipes? Est-ce qu'il y avait vraiment des attaques placées du côté parisien ou est-ce que c'était juste faire tourner le temps et puis la prochaine fois où on peut attirer le pressing, faire des passes un peu négatives et ensuite balancer en profondeur? Mais est-ce que sinon il y avait vraiment une recherche de... Tu vois, pour moi, la meilleure occasion parisienne du match, enfin la plus jolie, c'est l'espèce de petit piqué de Messi là, où il essaye de faire revenir la balle, mais elle ne revient pas, donc du coup, elle passe à côté. Mais où en fait, ça part d'une relance hyper courte et tu combines et tu casses le pressing. Mais sinon, sur des attaques vraiment placées demi-terrain, j'ai l'impression que Paris était plus dans la gestion du tempo et de dire on est en position favorable, on regarde ce que le Real nous donne et s'il nous donne rien, bon, on continue à conserver.
Ouais, c'était un peu ça, c'était un peu de la conservation d'énergie et en même temps que de la conservation du ballon. Alors le Real avait deux options quand ils avaient le ballon sur face au bloc bas parisien. C'était soit Vinicius en 1 contre 1, mais qui a été très bien défendu par Hakimi sur la première heure. J'ai pas souvenir de Vinicius qui passe beaucoup de 1 contre 1. Il s'est souvent mêlé les pieds devant Hakimi. Et l'autre solution, c'était les centres. Mais on a vu des centres venus de la droite de Carvajal, on a vu des centres de Kroos. Carvajal qui a été très bien défendu par Nuno Mendes aussi pendant une heure, ça a été dur pour Carvajal. Hein, sur le... C'est aussi pour ça que le côté droit du Real n'était pas du tout dangereux, parce que même en 1 contre 1, il n'a rien proposé contre Nuno Mendes. Et ça a évité à Mbappé de devoir revenir défendre. Et du côté du PSG, bah évidemment, après le PSG a attaqué à quoi? 3,5
oui.
Quand il y avait un des deux latéraux qui montait.
Oui, c'est ça, parce que les trois milieux étaient vraiment en blocage d'une éventuelle suite et en solution pour revenir vers l'arrière, en fait.
Tu vois, ils ont attaqué à 3,5 avec Hakimi et Mendes qui montaient de temps en temps. Donc les seules possibilités, c'était je combinais Neymar, Messi, Mbappé et puis on lance Mbappé parce que ça va pas être un des trois autres, à l'exception de Messi, donc qui fait cette course après sur un jeu combiné avec Neymar. Donc l'attaque placée, c'était plus ah mince, on n'a pas réussi à attirer l'adversaire en les faisant presser haut, ou on n'a pas réussi à les sanctionner dans la profondeur, donc maintenant on va essayer de conserver le ballon jusqu'à ce que y a un mec qui se déconcentre ou qui vienne nous chercher un petit peu et qu'on les fasse sortir. Je crois que l'attaque placée, c'était action, surtout ça.
T'as cette action où t'as l'appel de Nuno Mendes en profondeur.
C'est ça, c'est un peu ça. Ouais. On les endort un peu, puis il y a un appel.
Avec l'ouverture de Kimpembe et Mbappé qui coupe au premier, qui marque, mais il était hors jeu.
Mais d'ailleurs,
Nuno Mendes était hors jeu.
Toutes les occasions parisiennes, quand une bonne partie des occasions parisiennes sont annulées en fait par la ligne défensive du Real qui joue assez bien, plutôt bien ça. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu des jeux combinés pour d'enchaîner en une touche, en fait, côté parisien et avoir cette sensation de surprise parce que les Madriennes avaient le temps de voir le jeu long venir, en fait. Et ça a été pareil sur le but de Mbappé en deuxième, là. Quand quand il feinte complètement Courtois, c'est que Neymar fait 2, 3, 4 touches et en fait tout le monde a vu qu'il voulait chercher Mbappé et la ligne du Real remonte.
Et la fois où ils se font piéger, même si ça part de très haut, oui, Mbappé part de son camp sur celle-là, je crois, dans le dos de.
Sur le but ?
Il aurait pas pu.
Ouais, sur le but, il part de son camp. Ouais.
Il aurait pas pu être hors-jeu, mais c'est juste pour signaler que sur cette action, Neymar la met en une touche.
Ouais, exactement. Ouais.
Il a même si, bon, vu qu'il part de son camp, il aurait pas pu avoir hors-jeu. Mais voilà, c'est ce genre de spontanéité qui aurait pu profiter un peu plus à Paris dans la moitié de terrain adverse.
Sachant que s'il la met pas en une touche, alors je pense pas, mais tu peux te dire que Militao, il lui manque, je pense, allez, 15 cm pour la dévier de la tête.
Ouais, ouais.
Tu dis peut-être que tu sais, il recule un peu plus et que là, du coup, il peut couper la passe. En tout cas, c'est vrai que le fait de jouer en un temps fait que bah, du coup, l'adversaire n'a pas question de replacement ou autre. C'est la situation qui est comme ça. Et puis, à toi de gérer au mieux. Florent, est-ce que, alors c'est toujours facile ou difficile selon comment on le prend, mais de juger après, est-ce que tu vois le moindre signe annonciateur de ce qui va se passer ensuite avant que Donnarumma fasse sa bêtise? C'est-à-dire que, alors, encore une fois, c'est très facile après, mais les relances de Marquinhos, par exemple, tu dis le fait que Marquinhos puisse couler, c'est pas forcément une surprise. Par contre, sur tout le reste...
Il était déjà en difficulté défensivement, quand même, Christophe Marquinhos, j'ai trouvé, sur la première heure.
C'est ce que
le
je
Real
dis.
Le Real était pas très dangereux, mais... Non, tu parlais des relances, mais sans ballon, je veux dire. Même sans ballon, il était en difficulté, je trouve.
Oui, d'accord, non, pardon. C'est, ouais, même sur les duels, même sur les duels. Mais disons qu'en gros, j'avais ciblé, entre guillemets, je me dis, oula, s'il y a un problème, je l'envisageais pas trop. Mais pour moi, ça serait venu de Marquinhos, sachant que Donnarumma, c'est plus un truc au long cours, où tu dis qu'un peu comme Alisson, mais à une autre échelle, il a tendance à surjouer avec ses pieds, et on en a déjà parlé, je sais plus si c'était dans l'émission entre nous, mais le côté, bon. Il y a peut-être un moment où ça risque de brûler les pieds, il risque de se croire un peu meilleur qu'il n'est.
Pour moi, c'est le côté la nonchalance et pas à la hauteur du talent. Tu vois, c'est-à-dire que le joueur nonchalant, mais qui sur la prise de balle va t'éliminer avec un mouvement incroyable, ok. Donnarumma et Alisson, quand ils sont nonchalants, c'est juste un manque de lucidité sur leur niveau technique. Vous avez besoin d'être concentrés, les gars. Il faut que vous soyez concentrés, il faut que vous soyez actifs et en mouvement sur vos appuis, sinon, voilà ce qui arrive. Et Alisson, vous le savez très bien, parce qu'à chaque fois qu'il fait ça, en fait, j'apparais sur la conversation pour me plaindre, pour être poli. Et Donnarumma a un peu ce côté-là. Et c'est surtout ces grandes gabarits-là qui d'un coup se disent « Ah bah c'est bon, je suis tranquille et tout », mais en fait, non. Et ça s'est vu.
Ça me fait un peu penser aux conducteurs, tu leur dis genre « Attention », ils font « Mais non, c'est bon, t'inquiète, j'ai vu que ça freinait devant ». Et puis en fait, ils sont quand même obligés de piler au dernier moment parce qu'ils sont beaucoup trop en confiance sur leur vitesse. Mais bref, Solran, est-ce que tu voyais des maillons faibles ou des choses qui auraient pu faire deviner la suite?
Pas spécialement, non. Non. J'ai pas d'autre réponse.
Non,
j'ai pas d'autre réponse à cette question.
Une réponse négative est une réponse.
Non, mais il y a même pas de temps fort du Real avant le but.
Non, mais c'est ça, on en parlait pendant le match. On se disait, bon, bah, tu vois, même quand Mbappé marque, je cite quelqu'un dans la conversation, il se dénoncera ou pas, ça se trouve, il est pas là, c'est peut-être Julien. Mais au moment où Mbappé marque, quelqu'un envoie, bon, bah, c'est palpitant comme match.
C'est Christophe, je crois, c'est Christophe. Je le dénonce, il me semble que c'est Christophe.
Ouais, j'ai juste dit palpitant.
Palpitant. Mais moi, je l'ai pris comme, ouais, c'était écrit, quoi. Quand tu vois les 40 premières minutes, tu fais, bon, bah, voilà, c'est...
Bah, moi, c'était le Mbappé en profondeur qui va les tuer. C'était déjà la 2e ou 3e fois, et tu dis, bon, bah, voilà. Et en fait, sur le coup, je me dis, mais il va encore en avoir 4 d'ici la fin du match, et il va en mettre un ou deux, quoi.
Bah, voilà, c'est ça.
Mais les amis, hein, à la limite du hors-jeu, mais et hors-jeu.
Oui, en plus, ouais. Et en plus, quand tu vois le début de la deuxième mi-temps, t'as celle où il met la feinte sur Courtois et où donc il est hors jeu. Et puis t'as celle juste après où, lancé en une touche, là encore par Messi, il arrive à passer devant Militao et Alaba, il se fait reprendre au dernier moment et il passe devant Militao, il se fait reprendre par Alaba, je crois.
Ouais, c'est ça.
C'est ça l'action. Et du coup, tu fais, oui, bon, bah, ça, ils vont en avoir une ou deux autres et puis ça va boucler ce scénario. Et en fait, bah, t'as cette erreur-là, et puis le match bascule dans toute autre chose, pardon.
Raphaël, c'est le moment de la bascule, l'instant X Donnarumma, qui après... fait une Léo Jardim.
Ouais, alors, oui, en fait, le souci, c'est qu'à ce moment-là, si tu veux vraiment obtenir la faute, je mets ton corps entre Benzema et le ballon, vraiment, et limite concède le corner, tu vois.
Mais je pense qu'il voulait pas obtenir la faute. Je pense qu'il...
Non, 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 je pense qu'il dit oh putain, il va vite, il perd le ballon et d'un coup il fait comme Jardim. Alors en plus que Benzema arrive à l'épaule et pas sur sa jambe, donc c'est encore plus difficile de siffler. Et je pense que le côté nonchalant joue aussi, c'est-à-dire qu'on voit clairement que t'étais pas prêt pour l'impact en fait. Donc,
sachant qu'en plus, c'est pas comme Paqueta où en gros Jardim était par terre et Paqueta marque en se retournant avec un gardien qui est par terre. Là, alors c'est pas facile, mais il n'y a pas but dans la seconde. Il faut encore récupérer, il y a encore le centre pour Benzema. Potentiellement, bon, elle est quasiment insortable, mais je veux dire, potentiellement, il y a quand même une chance de se rattraper derrière, quoi.
Pour mettre un peu de rationnel dans l'irrationnel qui se passe derrière, par contre, autant le 1 partout et le fait que le Real va revenir avoir des temps forts, tu le sens pas arriver. Autant, et je vais me jeter des fleurs, mais à partir du moment où le PSG concède le 1 partout, je pense que j'ai passé 10-15 minutes à m'énerver contre le fait qu'ils continuaient à jouer court sur des situations où ils ouvraient le jeu au Real qui n'avait qu'une seule possibilité pour te prendre le match. À ce moment-là, c'était intensité, l'énergie du public, et on va jouer sur le temps fort qu'on vient de se créer grâce à un but, parce qu'on sait que psychologiquement dans le foot, le but, et on l'a tous dit d'une manière ou d'une autre, quel que soit le niveau des joueurs et l'enjeu, en fait, un but, ça change la donne, même pendant quelques minutes.
Et d'autant plus que sur attaque placée, le Real avait rien fait jusque-là.
Voilà, c'est ça.
Pour aller dans ton sens. Tu leur rends la balle et tu fais, bon, allez, on repart sur la physionomie du début et puis on regarde.
Mais on repart dans votre camp, quoi. On se donne un peu de temps pour respirer. Et puis, de toute façon, dans la profondeur, vous n'avez pas non plus, depuis le début du match, réussi à nous mettre en difficulté. Donc, ça, j'ai. Et Kimpembe refait quasiment l'action de Donnarumma quelques minutes plus tard. Hein. Il y a une action où il fait une prise de conduite de balle intérieure et il perd quasiment le ballon au point de pénalty. Et à ce moment-là, en fait, Alors, Flo dira qu'il n'y a pas forcément les joueurs au milieu de terrain pour aller gagner ces ballons-là. Et ça peut être vrai. Après, en face, c'était Modric, Kroos, Valverde à ce moment-là du match. Donc, c'est pas non plus...
Kamavinga était entré. Hein.
Peut-être, oui.
Ça change pas tout, mais Kamavinga était...
Moi, ce que j'aurais aimé, je pense, ce que les Parisiens auraient dû faire pour souffler un peu et sortir le... Pour, en fait, réduire le temps faible le plus vite possible, le couper. Et ils l'ont fait un petit peu avec de la possession au moment, mais ils auraient dû continuer après et le refaire encore. C'est, tu fais monter un peu ta défense, tu joues long sur Danilo et tu mets dans la zone Paredes ou un autre milieu, même Gueye, et Verratti, et tu sais que s'il y a un second ballon qui est très vite gagné, si t'es contre un Real qui est un peu avancé, avec Neymar, Messi, en 2-3 touches, ils peuvent te lancer Mbappé, quoi. Ou au moins, tu perds le ballon un peu plus haut et tu vas embêter le Real, et finalement, ils ont continué à jouer derrière leur camp, à surjouer, à jouer court, à continuer à vouloir faire les mêmes sorties de balles à un partout qu'à 1-0, mais c'est plus du tout le même match, psychologiquement. Et c'est un vrai problème, enfin, c'est un problème, c'est quelque chose dans le foot qui se vit à... dans toutes les catégories, et je l'ai même vécu dans la journée, là, on est mercredi soir quand on enregistre, on allait faire un match amical avec les petits U13 du Red Star, et à un moment, on est vraiment en difficulté contre un pressing adverse, ils ont un temps fort, ils n'arrêtent pas de gratter des coups de pied arrêtés, et mon gardien joue long sans avoir fait monter ses centraux, et ce qui est marrant, c'est que Donnarumma l'a fait aussi, c'est-à-dire que des joueurs de niveau U13 régionaux et des joueurs de niveau Ligue des Champions ont commis les mêmes erreurs dans deux enjeux de contexte complètement différents. C'est aussi ça qui est intéressant dans le foot, c'est qu'en fait, tu peux t'appeler Marquinhos, Kimpembe, Donnarumma, Messi, Verratti, Neymar, Mbappé et compagnie, et tu vivras les mêmes problématiques. Et ça, pour le coup, on peut regretter que le PSG ait pas réussi à régler ça, mais c'est quelque chose qui se voit et qui se voit à tous les niveaux. On a assez parlé de City ces dernières années, Christophe, notamment contre Liverpool, qui, dès qu'il concédait un but, en fait, en concédait trois. Oui, ça a été un peu corrigé par Guardiola depuis. Mais c'est arrivé à d'innombrables clubs. Alors le PSG, ça lui arrive beaucoup depuis 5-6 ans.
Je crois que c'était à peu près le même genre, le Liverpool-Dortmund en C3. Ça doit être la première campagne de Klopp, il me semble, où Anfield gagne le match, en fait.
Ah oui, mais complètement. Alors que Dortmund met une leçon à Liverpool sur la première période, d'ailleurs.
Tout ça pour prendre un doublé de coquet en finale. Je vois que Raphaël est en train de boire à la caméra, du coup, je sais qu'il ne peut pas réagir. Malgré tout, Florent... Alors, notons que l'anecdote de Raphaël aurait été encore meilleure si il nous avait dit que ces U13 n'avaient pas fait l'erreur qui avait été faite par le PSG. Oui. Là, du coup, j'ai envie de dire que je peux même trouver des U5 qui font la même erreur. Donc, c'est un peu moins bien.
On n'a pas concédé de but là-dessus.
Voilà. D'accord. Mais alors, justement, tu parles des buts concédés. Florent, le 2-2 est concédé sur une transition du Real. Alors, transition qui va pas directement au bout tout de suite, parce que Vinicius est en lancé seul vers le but, mais il est repris par Danilo, il temporise un peu, il retrouve Modric, qui ensuite, bon, comme c'est un peu post-transition, Paris est quand même pas bien replacé, et qui peut trouver Benzema, n'empêche que t'as quand même été troué par Modric, là je suis en train de revoir l'action, qui passe au milieu de trois joueurs, et qui fait 40 mètres avec la balle avant de faire une offrande à Vinicius, donc malgré tout, certes t'as fait des bêtises, mais celle-là c'est en plus un truc un peu différent, de manger une transition à la 75e, alors que c'est pas le moment en fait.
Et surtout, de manger une transition, ça doit être 2-3 minutes après une séquence de possession défensive où tu as la balle pendant 2 minutes et tu te demandes comment le Real va la récupérer.
Oui, parce qu'il n'y a aucune intention.
Je sais plus à quel moment c'est.
Ça me faisait penser à l'Inter la veille, alors qu'il était à 10, mais qui met son but pour revenir à un but de la qualif. Sauf que Liverpool fait circuler et l'Inter n'a aucun mécanisme pour la récupérer, en fait.
Mais le Real est replacé et puis les Parisiens font circuler. Et en plus, sur cette séquence-là, tu dis bon, bah ça y est. Ils ont réussi, ils sont en train de calmer le temps fort, de mettre fin à ce truc-là, et finalement ils vont peut-être s'offrir 20 minutes, voilà, un peu plus tranquille, où ils vont reprendre un petit peu la main sur le match après ces séquences de panique qu'évoquait Raphaël. Et en fait, finalement, bah t'as en effet cette action où ça part de Modric, ouais, qui gagne 40 mètres,
ouais, c'est ça,
et qui a deux joueurs près de lui. Alors je sais qu'il y a Neymar.
Ah, c'est Neymar qui perd le ballon, en fait.
C'est Neymar qui tente une passe intérieure, qui la perd, donc du coup il est au contact et lui court après. Verratti anticipe la passe intérieure, du coup il se sort de l'action tout seul. Donc voilà, et je pense que
il y a un deuxième joueur à côté.
Je pense que c'est Gueye qui court à côté.
C'est Gueye. J'hésitais avec
Mais qui n'a pas le temps d'intervenir parce que la passe elle est faite dans le bon tempo.
Ouais. Mais voilà, ça c'est l'instant. L'instant faute tactique, normalement, c'est là où il y en a un qui doit avoir la présence d'esprit de tirer le maillot, de faire quelque chose pour arrêter l'action, quitte à prendre son carton. Chose que le Real va très bien faire à deux reprises par la suite, une fois sur Mbappé, une fois sur Neymar. Il y en a une, c'est Camavinga qui le fait, et l'autre,
je pense que c'est Vasquez.
Qui prend carton, ouais. Il prend peut-être carton dessus, c'est peut-être lui en effet. Mais voilà, ça aussi, c'est le genre de choses et de fautes où à ce moment-là du match dans une telle situation, c'est au plus haut niveau une des premières choses qui peut te venir à l'esprit. Et moi j'aurais presque envie de dire avec un peu de cynisme que c'est faire une erreur que de ne pas faire ce genre de faute à ce moment-là du match, quoi. Voilà.
Sachant, Raphaël, que là, je viens de remettre le screenshot au moment de la deuxième passe de Modric, donc celle qui est décisive pour Benzema avec Hakimi qui traîne. Il y a quand même beaucoup de monde, il y a quand même 6 joueurs parisiens qui sont là contre 2 madrilènes, et les 6 sont même plus proches de Benzema puisque Vinicius est seul excentré côté gauche, et il n'y en a aucun qui coupe vraiment la ligne de passe, il n'y en a aucun qui marque Benzema. Bon, après, si tu vas me dire si Hakimi monte, la question se pose pas puisqu'il y a hors-jeu, mais en plus t'as quand même, je veux dire, la transition défensive, elle est quand même plutôt bien gérée finalement, dans la mesure où bah normalement, tu as quand même une nette supériorité numérique et tu te fais avoir sur ce replacement-là, alors qu'encore une fois, tu es quand même tellement nombreux.
Je suis en train de revoir la vidéo en même temps. En plus, Neymar essaie de faire faute à la fin, mais c'est trop tard. Il essaie de stopper Modric.
Oui.
Mais c'est trop tard. Mais il y en a un des deux, là, Neymar ou Gueye, qui doit tout simplement être attrapé par le maillot, prendre son carton jaune et se replacer. Et ça veut pas dire que le PSG se qualifie, mais ça te stoppe complètement. Et en plus, ça lance. Modric, derrière, il est en feu après cette action. Sur sa fin de match, derrière, il est
flèches rouges jusqu'au bout. Hein.
Ouais, et psychologiquement, tu vois tout ce qui change, tu vois. Et après, bon, je pense qu'à partir du 1 partout, les défenseurs parisiens, tous les deux centraux, ont joué beaucoup à l'énergie, beaucoup à l'émotion, encore plus que d'habitude. Parce que Kimpembe, il sort sur Modric, là, sur l'action, il sort à fond, comme si Modric allait frapper tout de suite, alors que le ballon n'est pas forcément dans une position où il peut enchaîner et frapper. Et il sort, et en fait, il ouvre tellement l'angle de passe entre ses jambes que derrière, Modric le glisse. Alors, c'est facile à dire, hein, mais vraiment, doit y avoir... Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, Danilo avait, vous avez vu la vidéo, je pense, avait crié sur Messi à l'aller, parce qu'à un moment, il s'était arrêté quand Vinicius était parti en contre, et il avait complètement refusé de faire une faute tactique. Et là, Neymar, il veut pas l'attraper par le maillot. Alors, il est pas sous le coup d'une suspension, en plus, Neymar, il me semble, je sais pas. Mais Neymar et Gueye, ils sont là pour faire faute, en fait, sur cette action. Et enfin, la faute tactique, ça fait partie du foot. Alors, même si je sais que certains entraîneurs aiment pas le dire, mais combien d'extraits de Guardiola on a qui dit à ses joueurs lors du doc Amazon au milieu de terrain, vaut mieux qu'on fasse faute dans le camp adverse, et c'est pas grave si on fait faute. Et puis, il y a l'exemple de Ramos en finale 2010, en 2016 contre Carrasco, qui fait une énorme faute à 40 mètres des buts, et il prend que jaune en plus. Alors que Carrasco va éliminer tout le monde et va aller jusqu'au but pour mettre un 2-1 à la 90e.
Pour reparler faute tactique, celle d'un madrilène aussi, c'était Supercoupe d'Europe, Supercoupe d'Espagne.
Ah, c'est Casemiro, non ?
C'est Valverde.
C'était Valverde.
C'est Valverde, oui, qui
en fait une incroyable.
Contre l'Atlético aussi, d'ailleurs.
Qui termine avec le trophée d'homme du match, ce qui est de mémoire, hein, ce qui est quand même un troll incroyable, parce qu'il prend rouge, je crois, lui, par contre, sur l'action. Mais il me semble que là, il y avait. Genre, ça te permettait de rester genre à 2-1 ou quelque chose comme ça, il n'y avait pas de prolongation derrière.
pour vous raconter un peu mes pérégrinations sur les terrains de football d'Île-de-France. Samedi dernier, il y avait quart de finale de Coupe de Paris entre Meudon et le Restart, en 14. Donc, je suis allé voir parce que c'est les joueurs que j'ai vus pendant 2 ans. Match très serré, il y a un partout, ouais, ou 2-2, je sais plus. Mais en tout cas, c'est 2-2, je crois. Jusqu'à la 75-77e, parce que c'est 2 fois 40 à cet âge-là. Et à un moment, donc, un de nos joueurs part en 1 contre 1 devant un défenseur à la 78-79e. Il va entrer dans la surface, et à ce moment-là, il y a un petit de Meudon, vraiment qui était plus petit que lui, qui en gros le ceinture et le fait tomber par terre. Et il prend rouge, mais il reste 2 minutes. Et le coup franc n'est pas marqué parce que c'est un coup franc qui est trop près du but, donc c'est encore plus difficile à marquer. Et derrière, tu vas au tir au but parce qu'il n'y a pas de prolongation en 14. Donc là, pour le coup, des U14 de Meudon étaient plus intelligents que les joueurs du PSG. Parce que là, tu dois faire faute. Tu dois faire faute direct.
Voilà, et le petit. Le running gag de Raph.
Non, mais en plus, le petit a pris rouge, mais vraiment tout le staff de Meudon, et je me rappelle, tous les joueurs de Meudon l'ont félicité. Genre, ouais, merci, bravo, parce que sinon, on prenait le 3-2. Sur un contre à la 79e en Coupe de Paris.
Il s'appelle Marcus Vettari.
Je sais pas comment il s'appelle. C'était un beau match en tout cas, mais c'est vraiment dommage parce que c'est vrai que c'est une erreur. C'est pas très beau de faire faute tactique, mais c'est une erreur à ce niveau-là de compétition et à ce moment-là du match de pas la faire. Et alors bravo à Modric pour son action, mais il doit jamais sortir debout de ses 8-9 touches de balle à ce moment-là.
Oui, debout, entendons au sens vraiment...
Enfin, debout, avec le ballon, quoi.
Oui, c'est ça. Non, mais debout, voilà, au sens littéral de la chose, et pas sortir debout, genre il doit quitter le terrain en civière. Et...
Non, oui, comme, c'est ça. Non, pas dit.
Comme ça pouvait être genre le trash talk dans les années 80 en NBA, tu sortiras pas debout, quoi. Florent, il y a aussi le 3e but, je sais pas si tu t'en souviens. Alors, j'imagine que tu te souviens de la chose de manière générale, mais si tu te souviens de tout ce qui se passe, parce que mine de rien, le réalisateur qui était un peu en déglingue d'ailleurs, qui nous a fait 2-3 plans un peu sans aucun sens, bon là, plus logiquement que certains de nos autres plans, il nous montre Benzema après le but, et quand l'image revient, il y a Vinicius qui est en train de partir seul en profondeur, il y a Marquinhos qui dégage dans l'axe, alors je suis pas... Enfin, les relances dans l'axe, toutes ne se valent pas, il y a des relances dans l'axe qui peuvent être intelligentes. Celle-là, au sol, face à un adversaire qui est en train de monter, je ne sais pas, et ça termine en but dans la seconde.
Super passe D. Super passe D de Marquinhos, hein, qui la met parfaitement à Benzema, qui peut finir en une touche.
Sans prendre l'info, juste, voilà, je dégage dans l'axe, et puis on regarde ce qui se passe.
Ouais, c'est le genre de situation. Alors que... Alors, certes, Là, je revois l'action. Donc
mais il défend super bien au départ, comment il passe le corps, c'est super bien défendu, puis après...
Ouais, alors que là, le plus simple pour lui, vu comment il met le corps, c'est de la remettre à Donnarumma. Même si, Donnarumma s'est raté, mais...
Mais pour le coup, voilà. Donnarumma, il aurait pété. Hein, là, si le ballon arrivait dans ses pieds, il aurait jeté.
Oui,
hein,
oui, c'est ce qu'il fallait faire. Mais c'est vrai que là, ça se transforme en passe-dé. Je pense que si Vinicius était passé, il aurait... peut-être mis une passe D encore moins bonne à Benzema que,
ah oui, c'est sûr.
Que celle que lui met Marquinhos.
C'est sûr, il n'aurait pas été de mon pied, je pense.
Pour reparler du Real, pas de ce Real-là, mais le Real qui a gagné 3-4 Ligue des Champions, c'est des actions qu'on les a jamais vues faire. Ils n'ont jamais fait une erreur comme ça, j'ai l'impression, sur les tours de... les matchs éliminatoires.
Ah oui, tu parles des erreurs. Hein,
je parle des erreurs. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu Ramos, Varane, Casemiro, Kroos, Modric et compagnie, ou même les latéraux de l'époque, Marcelo, Carvajal, ou même Cuadrado, faire ça, en fait. C'est-à-dire qu'on, c'était, et c'est ça qui était très fort dans cette équipe-là. Alors, c'est peut-être parce qu'il y avait des joueurs qui avaient une espèce d'emprise psychologique sur le match, mais ils faisaient pas de... Enfin, j'ai pas souvenir d'une erreur défensive du Real sur leur parcours européen. En fait.
Je pense qu'il y a une année où ils en font une contre le Bayern. Mais je me demande si c'est pas Navas qui se foire. Je suis pas sûr que ça soit forcément mais défensif.
Quand je dis erreur, c'est vraiment gestion des émotions qui te fait faire n'importe quoi, tu vois. Et ils étaient très très forts là-dessus, quand même.
En fait, c'est soit ils en ont pas fait, ou soit les souvenirs nous font défaut, ils en ont faisaient en tout cas moins que leurs adversaires.
C'est une certitude. Tu vois, c'était rare qu'ils soient autant à la rue dans leur temps faible, que les joueurs paniquent, et c'est souvent ça qu'on disait du Real qui avait enchaîné. C'est que temps fort, temps faible, ils étaient... Bah, temps fort, ça sanctionnait, et temps faible, ça subissait, mais ça pliait pas.
Et puis ils sortaient du temps faible à un moment.
Voilà, ils arrivaient à marquer sur leur temps faible.
Parce que là, Paris, tu dis, je sais pas, s'il n'y a pas de qualif et qu'en fait le match dure encore 40 minutes de plus, je sais pas si Paris, à un moment, finit par sortir de son temps faible. T'as l'impression que c'est infini, en fait.
Ah bah, psychologiquement, ils sont... À partir du 2-1, en fait. Entre le 1-1 et le 2-1, il y a des moments où ça va mieux. Mais à partir du 2-1, et de l'engagement, il est...
Sachant qu'entre le 2-1 et le 3-1, il n'y a pas le temps d'analyser grand-chose, puisque c'est une passe de Verratti qui est interceptée et ses buts.
Non mais le ça n'a je comprends pas bien hein, pour ce qu'ils font sur l'engagement. Je sais même pas à qui ils donnent le ballon, c'est à Gueye qui perd le ballon.
C'est ouais, Verratti c'est Gay, pour moi qui.
Ah, mais c'est Verratti qui la donne à Gay. Et oui. Gay est devancé par Modric sur l'image. Je sais pas, je zoome parce qu'en fait.
C'est Rodrigo. C'est pas Rodrigo qui la gratte.
Si, si,
la
c'est
ah, c'est Rodrigo, ouais, t'as raison, c'est Rodrigo. Et non, mais parce qu'en plus, le réalisateur qui était un peu à la rue tout le match, sur le coup, on peut pas lui voir beaucoup parce que personne prend un but comme ça en fait.
Oui, autant ne pas montrer les 6 mètres dans le foot d'aujourd'hui, c'est assez scandaleux parce que les relances courtes, il se passe toujours des choses, quoi. Autant là, tu peux pas forcément te douter, même en connaissant Paris, qu'il va se passer ça. Alors, sachant que je disais que Marquinhos ne prend pas l'info, j'ai quand même l'impression qu'il la prend, et s'il la prend, c'est encore pire. Hein. Si vraiment il la prend.
Je pense qu'il veut jouer Kimpembe, mais il
oui, sera bah, je pense aussi. Mais en fait, au début, je pensais qu'il regardait dans le vague, mais après, il est quand même très orienté Kimpembe, mais bon, est-ce que c'est vraiment le moment pour faire ça, je sais pas trop, sachant que vous citiez le Real qui avait pas de temps vraiment faible, ou en tout cas qui les matchs se terminaient pas sur un temps faible où ils coulaient. Ils avaient un joueur qui est aujourd'hui à Paris, malheureusement ce joueur-là n'est pas vraiment footballeur, oui. Notre ami Sergio Ramos, et c'est un petit peu compliqué. Et ils avaient aussi, alors encore une fois, Ramos peut pas jouer, il est pas apte. Ils avaient aussi Keylor Navas dans les buts, qui est le gardien qui gagne la Ligue des Champions. Ils ont mis Donnarumma. Là, c'est facile de dire, il aurait fallu mettre Navas parce que Donnarumma est sans doute un peu meilleur que lui sur cette saison. Maintenant, c'est un premier test pour Donnarumma qui n'est pas hyper concluant. Après, ça veut rien dire dans le sens où Buffon se craque face à Manchester, alors que des tests, il en avait vécu beaucoup et des plus grands. Mais sachant qu'en plus, il y avait un aspect alternant, ce Raphaël qui disait qu'en gros. Voilà, ça aurait plutôt été Navas sur ce match-là. Le fait de mettre Donnarumma, c'était un peu, bon, Donnarumma est numéro 1 sur la fin de saison, quoi. Ça entérinait un peu le côté, bon, bah, il a été titulaire à l'aller au retour. Là, je sais pas comment ça va se gérer. Bon, finalement, la fin de saison est un peu anecdotique. Mais même pour lui, ça fait quand même un sacré recul après son euro, après son bon début de saison, où tu dis, ok. Enfin, pour moi, c'était genre, je sais pas, le 2-3e gardien du monde derrière Courtois, quoi.
Mais en plus, jusqu'à son erreur, il fait un bon match, hein, sur les coups de pied arrêtés. Il est hyper rassurant. Il éteint très vite les situations du Real. Sur les têtes de Benzema, il est présent sur sa tête là qui est forte mais qui est plein axe. Sur la frappe qui découle d'un hors-jeu, il la sort magnifiquement. Puis il y a cette action en fait. Et c'est pour ça que le match de pas mal des Parisiens est à deux visages. T'as 60 minutes où la plupart sont performants. Et t'as une demi-heure où t'en as pas un qui est là pour se remettre à l'endroit en fait. Quasiment le seul c'est Mbappé là quand il fait une différence tout seul et qu'il est rattrapé par un Madrilène. Mais sinon il y a très très peu de Parisiens qui ont réussi à remettre de l'ordre. T'as quand même du temps, même après le 3-1, t'as quand même du temps, quoi. T'as 10-12 minutes pour essayer de te créer une occasion.
C'est ça, t'as même un bon quart d'heure, hein. C'est la 78e, oui. Il me semble qu'il y a 5-6 minutes d'arrêt de jeu, il me semble. Donc t'as quasiment 20 minutes, quoi.
Et t'as aucune occasion.
Un seul tir pour le PSG sur la fin de match, c'est le coup franc de Messi qui passe au-dessus, qui rebondit sur les filets de Courtois.
Sachant que l'histoire, ça aurait été que Messi tire sur la barre comme tous ses coups francs en Ligue 1, pour vraiment avoir encore plus de regrets. Dans ma tête, c'était sûr qu'il allait tirer la barre, bon, ça passe juste au-dessus.
Par contre, à ce moment-là du match, alors c'est plus facile d'être performant quand tu rentres et que ton équipe est dans un temps fort, mais la différence entre ce qu'a apporté le banc madrilène et ce qu'a apporté le banc parisien, c'est monumental à ce moment-là du match.
Mais justement, Florent, on va en parler.
Oui.
Je vais couper Raphaël, mais...
Non, mais allez-y.
Mais je te relance sur le banc madrilène, donc Camavinga pour Kroos, Rodrigo pour Asensio et Vasquez pour Carvajal, surtout les deux derniers changements à mon sens. Vasquez parce que tu pouvais difficilement faire pire que Carvajal et que mine de rien il va un peu plus vite et c'est quand même ce dont tu avais besoin notamment pour l'aspect défensif et Rodrigo qui fait un chantier même si on avait la discussion entre nous on saura jamais hein, mais est-ce que si on inverse et qu'on fait Rodrigo sur la première heure et Asensio sur la dernière demi-heure est-ce que ça ne peut pas se rapprocher parce que bon il entre dans un contexte favorable mais c'est vrai que Rodrigo qui t'avait jamais spécialement impressionné après tu le vois pas toutes les semaines hein, mais sur les échantillons que t'avais pu voir de lui là fait partie de ceux qui changent le match.
Oui, clairement. Ne serait-ce que par ce qu'il amène en percussion, en hargne aussi. Tout à l'heure, vous évoquiez le fait que Asensio n'était pas forcément un des joueurs les plus agressifs dans le pressing madrilène et les plus impliqués aussi dans le repli. Bah, Rodrigo a quand même fait sa part aussi sur cette dernière demi-heure. Et oui, bah, des bons choix aussi avec le ballon. Et globalement, une entrée, oui, comme tu le disais, moi je l'avais rarement vu influent en fait. Je le voyais rentrer, faire ses trucs, mais je voyais jamais de sa part, même si j'ai vu assez peu le Real, mais j'ai surtout vu dans des gros matchs en Ligue des Champions. Et c'est vrai que j'avais jamais vu une entrée de Rodrigo où je me dis, tiens, ouais, là, il amène un truc qu'il n'y avait pas sur le terrain auparavant. Mais c'est vrai que, comme tu le disais, il y a la question qui se pose, c'est il rentre 4 minutes avant le but de Donnarumma. Est-ce que s'il rentre à la mi-temps, par exemple, est-ce que le changement est aussi prégnant et son influence est aussi positive sur l'équipe ou enfin voilà, est-ce que ça vient de Paris ou est-ce que ça vient de lui quoi.
J'ai une question fun à vous poser. Quel est, enfin, je sais pas si elle est fun, mais moi je la trouve fun. Quel est le moins bon joueur qui aurait pu rentrer du côté du Real et faire la diff vu l'état mental des deux équipes?
C'est dur parce qu'on va mettre un tir à quelqu'un qui n'a rien demandé.
Non, le moins bon joueur pour un niveau 8e de finale de Ligue des Champions, entendez-moi bien. Hein.
Ouais. Alors, pour citer Christophe, sur le banc, a priori, je prends sur FootMob, je pense qu'ils mettent tous les mecs sur le banc, ils mettent pas tout l'effectif. Hein.
Ah, tu vas me parler de Mario Diaz. J'imagine.
Alors, il y a Eden Hazard, Gareth Bale, Luka Jovic, Mariano Diaz, Daniel Ceballos, Isco, Vallejo et Marcelo. Et là, Lunin, mais je crois que c'est le gardien, ça.
Mais là, si tu veux, tu peux citer des joueurs de Ligue 2. Hein. Je parle pas forcément d'un joueur du Real. Hein.
Après, Isco, je me pose la question parce que je suis pas sûr qu'il gratte le ballon sur le troisième but ouais. que Rodrigo gagne. Après, peut-être qu'il fait des différences autrement.
Bale non plus. Bale non plus. Bale pour moi, je pense.
Mais j'aime bien le joueur. Hein. C'est pas pour être méchant, mais je pense que par exemple, Jimmy Cabot rentre à ce moment-là. Je pense qu'il met le feu à Paris.
Après, Cabot, maintenant, il est piston, donc c'est faudrait qu'il revienne.
Mais tu le mets à la place de Rodrigo. Je pense qu'il peut mettre le feu à Paris, même sur ce moment-là du match.
Non, mais par contre, un joueur dont
Est-ce que Draxler peut le faire?
Non, bah, Draxler...
Draxler, il met pas le feu, c'est un joueur de glace.
Ouais, c'est un Pokémon sable. Mais non, mais par exemple, je me disais qu'un profil à la Jonathan Bamba, par exemple, qui
court... T'es sûr qu'il allait tomber?
Qui est pas... Non, mais voilà, il court énormément. Et là, il a mis son premier but en 50 matchs. Je vais en tousser d'étonnement. Mais il a mis son premier but en 50 matchs. Mais c'est quelqu'un qui court tout le temps, qui va harceler, qui est quand même assez vertical, qui fait pas toujours les bons choix dans la dernière passe. Je me dis que ce profil-là, en courant beaucoup et en étant hyperactif défensivement, par exemple, aurait fait des différences. Après, est-ce que... Il y a différents profils de joueurs, par exemple, tu vois. Bon, c'est pas du tout le même poste, mais si on prend genre, ce qui est peut-être le meilleur joueur de Ligue 2, Van den Bomen, par exemple, n'aurait pas le profil, je pense, pour l'intensité, pour faire la différence dans ce match-là, quoi. Faut prendre en gros des mecs qui courent partout et qui vont essayer toujours de percuter et en gros de mettre en difficulté des adversaires qui ont le ballon qui brûle les pieds, quoi.
J'aime bien, j'ai ça d'Atube.
Ah, ouais.
que j'ai fait dans le coup de cœur tactique de la semaine à retrouver sur Twitter.
Hervé Basile, oui ou non?
Non, non, non.
J'ai un bon souvenir, je pense, d'Hervé Basile.
Son but contre le PSG.
Ah, c'était peut-être celui-là, alors. Je pense que t'as plus de souvenirs que moi, du coup.
C'est dans mon souvenir, il met un coup franc au parc, Hervé Basile, ou une frappe de loin, en tout cas.
Et Lenny Nanjis, il change le match.
Je crois qu'il est en Thaïlande, je l'ai croisé il y a pas longtemps, il me semble qu'il est en Thaïlande, ou un truc... Enfin, croisé, en gros, je regarde toutes les feuilles de match de tous les championnats, tous les week-ends. Et je l'ai vu dans un championnat assez improbable, il me semble que c'était là-bas.
Tu vois, Flo, moi, je pense que sur cette fin de match, tu mets Albert Ellis, je pense qu'il peut mettre le feu à Paris.
Vu le profil, c'est possible.
Je vais même pas dire non, parce que c'est pas impossible.
Mais j'ai même envie de dire qu'Albert Ellis peut mettre le feu à Paris ce week-end. Après,
mais il est pas blessé. Rapidement il était, de la il côte. Pas, il était pas blessé, Albert Ellis.
Il vient de revenir.
Il revient de blessure là. Ah, okay. Il est revenu de blessure la semaine dernière.
Mais
donc, je pense qu'il sera.
Mais oui, Florent, la cote est passée sur PMU de 22 à 18, je crois.
C'est ça, petite réminiscence de notre ancien partenariat. Mais on a regardé avant le match. La cote de PSG Bordeaux, et donc elle était à 21, c'est ça, 22 juste avant le match. La cote évidemment de la victoire de Bordeaux à Paris, et après le match elle est tombée à 18. Donc voilà l'effet sur les cotes de cette élimination du Paris Saint-Germain, en tout cas chez les bookies de PMU.
En tout cas, fin de saison de Paris va être assez spécial. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, messieurs, sur ce match?
Il y a quand même des performances individuelles qu'il faut peut-être évoquer, d'autres.
Allez.
Modric, on en reparle un peu ou pas?
Oui, d'ailleurs, on avait... c'était pas un débat, mais j'avais fait une phrase sur laquelle tu avais rebondi, sur la place de Modric dans les milieux à l'échelle de l'humanité, finalement. Parce que moi, je me posais la question, je me disais, putain, il se rapproche quand même dangereusement de Xavi, et sans que je mets pas grand monde au-dessus de Xavi à l'échelle de l'histoire du foot, du coup...
Je vous pose la question autrement. C'est-à-dire que le niveau actuel de Modric, qui est son niveau en gros minimum depuis, je sais pas, son arrivée à Tottenham, à peu près.
Ouais, peut-être la deuxième année à Tottenham. Bon
du coup, ça fait 10 ans, plus que ça, même 12 ans, 12-13 ans.
Plus.
Donc il a 13-14 ans de pic de carrière. Quel milieu a eu un pic de carrière plus long?
Il signe à Tottenham après l'Euro 2008.
Ouais, bah ça fait 14 ans du coup.
Ça démarre. Ouais, après, c'est pas dès sa première saison.
Non, non, ouais, bah on va dire une douzaine d'années. Mais même une douzaine d'années, je vois pas un milieu récemment qui a eu 12 ans de pic de carrière. Parce que Xavi, ça arrive tard dans sa carrière. Oui. Iniesta, ça arrive un peu plus tard et ça dure moins longtemps. Il faut dire qu'Iniesta et Modric, je crois qu'ils ont qu'un an d'écart, quoi, ou quelque chose comme ça, il me semble. Mais enfin, il y a peu d'écart.
Modric est beaucoup plus vieux que Fabregas. C'est juste pour l'anecdote. Le milieu qui fait le plus vieux par rapport à ses jambes.
Mais et du coup, enfin, je sais pas, j'ai pas d'exemple de milieu de terrain, surtout de son profil. C'est pas un 6, c'est pas un 10 qui va jouer entre les lignes dans les années 70-80.
Parce que même quand on remonte en plus, bon après, on pourrait se poser des questions sur les Tigana ou autres qui étaient encore hyper forts en fin de carrière avec Marseille. Ouais. Mais je veux dire, moi, il y a par exemple un joueur que j'adore. Alors, j'ai vu les matchs qui sont disponibles, hein, c'est-à-dire, je sais pas, une vingtaine ou autre. Mais Neskens, par exemple, était monstrueux. Mais ça a pas non plus duré des années. C'est-à-dire, il révolutionne le poste parce que premier box-to-box, il impulse le pressing et tout. Maintenant, le pic de carrière, je sais pas, il dure peut-être 7 ans. Enfin, c'est pas Modric qui est encore à 35 ans et monstrueux, quoi.
Parce que tu vois, Kroos, son pic de carrière, il est plus là depuis 2-3 ans, il a que 32 ans, par exemple. Ouais. Alors que, d'ailleurs, c'est lui qui sort, c'est pas Modric. Hein.
Oui.
Et on peut poser la même question pour Benzema.
Ouais, mais sauf qu'en plus, je pense que son... 35 ans. Mais si tu prends son niveau actuel, son pic de carrière démarre plus tard, parce qu'il était pas aussi oui. fort à 25-26 en plus, tu vois, donc c'est...
Ah oui, oui,
il y a même une ou deux années, à moitié à jeter, oui. finalement, qu'on a un peu oublié, parce que vu de France, voilà...
Mais... ses premières réelles.
Ouais, mais tu vois, même l'année 2017-2018, il met 5 buts en 32 matchs de Liga, tu vois. C'est un truc que personne n'a tilté. Et la précédente, il met 11 buts. Alors on va dire, oui, Ronaldo et tout. N'empêche que je me souviens d'avoir vu les matchs, il était pas du tout à ce niveau-là. Donc,
Non, mais voilà, non, mais c'est quelqu'un qui atteint. Enfin, il n'a jamais aussi fort que sur les 3 dernières années, je pense. Ou les 2 dernières années, je
sais pas. Non, en gros, ce qui était rigolo, c'est qu'en 2016, il met 24 buts, et puis ensuite, il en met 11 et 5 les 2 années suivantes. En gros, il a quand même ce mini-creux, ensuite, avant de se relancer. Si c'est pas Benzema, si c'est un autre joueur, qui n'a pas, du coup, où tu dis, bah, ça va revenir, le mec n'est peut-être plus là, quoi. Il y a peut-être le côté Higuain, où tu dis, bon, en fait, non, va voir ailleurs si t'es...
Parce que tu vois, quand on avait fait les 120, là, du coup, sur les années 2010, qui prenait la meilleure partie de la carrière d'Iniesta, la meilleure de Xavi, moins une saison, et puis celle de Modric. On avait mis Modric derrière Xavi, derrière Iniesta, derrière un des deux, je pense, peut-être derrière les deux.
Derrière les deux, je pense. Hein.
Je m'en rappelle plus. Mais si tu prends la globalité de la carrière, alors il y a l'impact médiatique, il y a la révolution du Barça, etc. Mais enfin, Modric, c'est, ça commence à être un peu n'importe quoi. Tu peux faire le distinguo championnat Ligue des Champions, mais il y a un nombre de performances quand même maintenant. Sans oublier sa Coupe du Monde 2018, qui sort
qui est presque une Coupe du Monde gagnée à l'échelle de la Croatie, si tu veux juger les performances individuelles.
Ouais,
dans le sens où sinon on dira oui, l'Espagne a tous les titres que la Croatie n'a pas. Là, tu peux dire c'est limite, ça vaut limite en termes de performance accomplie un titre, même s'il passe au tir au but à tous les tours. Quoi.
Ouais, ouais, non, mais c'est pour ça, Modric, match énorme. Et puis ça passe dès pour Benzema sur le deuxième but. Et exceptionnel.
Mais
ça,
tout le deuxième.
Toute sa deuxième période, de toute façon. Oui, oui, non, tout le deuxième but est exceptionnel. Mais enfin, pour moi, il doit pas sortir de son rond central, en fait. Donc,
oui.
Enfin, l'action doit être coupée avant. Donc, ça, c'est très bien.
Rappelons qu'il ne doit plus être debout, selon toi.
Non, mais il a cavalé sur 20 mètres. Mais tout joueur normal, à ce moment-là, du match, doit faire faute et l'attraper. Et bon, après, Benzema, je pense que, bon, pas grand-chose de plus intelligent à dire que juste c'est Benzema. Enfin, comme l'a dit Flo, il a jamais été aussi fort. Et côté parisien, je sais pas. Je sais pas. J'ai bien aimé, moi, Nuno Mendes jusqu'à l'entrée de Rodrigo, par exemple.
Ouais. Ouais, non, c'est...
N'était-ce pas dû à l'adversaire ?
C'est une question que je me pose.
Je les ai trouvés assez justes. Et Kimpembe et Marquinhos, qui sont encore... mais comme souvent, qui sont, je trouve, en difficulté dès que les émotions sont pas de leur côté. Et c'est quand même un thème difficile à travailler aussi, mais qui revient de manière assez régulière, je trouve, chez le PSG.
Et puis des huitièmes ou des quarts de finale de Ligue des Champions, on n'a pas toutes les semaines, donc du coup à chaque fois t'as un an pour voir si finalement t'as tiré les leçons de ce qui s'est passé l'année précédente. Mais c'est pas comme si chaque semaine tu pouvais, je sais pas, comme des coupes du monde de ski où bah chaque semaine ça se remet en jeu, etc. Et c'est à peu près toujours le même niveau d'intensité, d'enjeu, etc. Là il y a un truc, bon bah visiblement ils n'étaient pas prêts, on verra dans un an. Et dans un an, près huitièmes de finale retour, on aura exactement les mêmes discussions de savoir. Je sens que c'est pas toujours fluide, hein, parce que Donnarumma est énorme sur un euro, où tu peux estimer qu'il y a beaucoup plus d'enjeux qu'un quart ou un huitième de finale de Ligue des Champions, mais c'est vrai que c'est particulier, quoi.
Christophe, j'ai une question à 1 milliard de dollars pour Flo, je peux lui poser ?
C'est une question fun ou pas ?
Je sais pas, mais elle coûte cher. Si Flo sait y répondre, je pense qu'il a de l'avenir dans un poste important dans le football. Bah, t'es prêt, Flo, ou pas?
Ouais, vas-y, essaye toujours.
C'est quoi le projet de jeu du PSG la saison prochaine?
Il était pas convaincu par ta question, et le « la saison prochaine » l'a beaucoup fait rire, et ça l'intéresse, là, du coup.
Bah, le problème... Par rapport à qui va... Avec quoi tu vas te retrouver, en fait?
La question pose aussi celle-là.
C'est la question que tout le monde va se poser dans les prochaines semaines, je pense. Parce que... Mais de toute façon, même depuis le début de la saison, en fait, tu sais que Paris est parti sur la dernière année avec Mbappé en ne le laissant pas partir. Mais c'est vrai que l'année prochaine, tu sais que dans ton 11, par rapport à l'équipe actuelle, devant, t'auras Messi, t'auras Neymar... Et puis, on verra ce qu'il y aura en plus, en fonction du recrutement qu'ils vont faire. Mais je pense que, en fait, sans départ de l'un ou de l'autre, qui n'arrivera pas, je ne vois pas comment tu peux avoir quelque chose de plus cohérent que cette année, et un coach qui doit plus essayer de faire match après match que de pouvoir réussir à construire quelque chose de... Je ne vois pas comment Paris peut progresser collectivement dans son projet de jeu, en gardant Messi et Neymar l'année prochaine.
J'ai une question fun pour Christophe, pour toi maintenant, Christophe.
Vas-y, ça sera pas aussi fun que la réflexion que je me faisais, mais vas-y.
Ah, pardon, mais tu
peux... Non, vas-y. Moi, je suis en train de me demander, est-ce qu'il y a un entraîneur qui serait assez fou pour mettre genre Neymar en 6 et Messi en faux 9, mais genre, tu vois, chaque semaine, Neymar, le mec, il se fout devant la défense, où il fait comme Kroos, là, qui joue limite latéral gauche et qui envoie juste des transversales en profondeur.
Ah, la Boudbouze, ouais.
Ouais, Boudbouze avec l'autre tuel.
Bah ouais. Non, mais c'est une question qui est folle, mais qui finalement a sa part de rationalité. Hein. Si le mec n'arrive plus trop à courir, dans l'absolu, la qualité de passe, elle est quand même supérieure à tout le monde.
Bah, il serait plus pertinent en 6 que sur un côté.
Bah ouais. Et il n'aurait pas à défendre. Bon, bref.
Ou en tout cas dans l'axe, quoi, dans un axe.
Ouais. Mais pose la question.
La question, elle est pour toi, Christophe. Les recrutements suivis, enfin, il y a quelques années, mais de Neymar et Messi qui maintenant ont passé leur pic, en tout cas physique et athlétique, est-ce que ça te fait... Moi, ça me fait penser à un trade NBA du début des années 2010. Est-ce que tu sais auquel je pense? Une équipe de NBA a récupéré des stars.
Ah, Howard, Nash et les Lakers? Non.
C'est un autre.
Non, c'est les Nets.
Ah, les Nets, ouais, Garnett.
Les Nets. Garnett, Pierce, okay. Ils avaient pris Allen ou pas? Je m'en rappelle même plus. Ils avaient pris Garnett et Pierce, en tout cas.
Je crois qu'Allen ne vient pas et que c'est de là que vient la brouille, il me semble. Mais dans tous les
cas... Ah oui, mais c'était Deron Williams, le troisième, non?
Ouais.
C'était pas ça?
Non, il était déjà là-bas.
Enfin bon,
ouais, ça, il était déjà au Nets.
Il venait compléter le... Et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. C'est bien sur le moment, parce que si dans les 2 ans, tu gagnes, tout va bien. Ou dans l'année, si tu gagnes, tout va bien. Mais il y en a un qui est en contrat jusqu'en 2024 ou 2025 et l'autre 2026.
Et moi, ça me fait penser à un truc, c'est le sujet de l'équipe Explore que j'ai fait sur la vitesse. Où il y a 2 jours a été publié, alors c'est en abonnement. Mais je le dis puisque j'ai fait un engagement exceptionnel de genre 2 retweets et que tout le monde s'en tape. Alors après, il faut être abonné à l'équipe premium. Mais où j'ai fait 16 000 signes, donc assez long, sur les débuts de Messi, Neymar, Verratti, etc. Et la version que tu as aujourd'hui et la géométrie, en gros, du PSG, le fait que tes latéraux soient assez bas, que tu puisses pas forcément facilement créer de l'espace. Et de manière générale, le fait que Paris avait tout pour être une équipe rapide, sauf que ça aurait... T'aurais été une équipe hyper rapide si t'étais en 2017 et que là finalement Paris est assez lent, sorti de Mbappé, puisque bon, tes 2 autres sprinters sont latéraux et tu joues dans un système où tes latéraux montent peu. Mais voilà, on a vu un petit peu ce côté lent. Mine de rien, alors tout le monde va en parler, donc ça sert à rien de faire une demi-heure là-dessus, Florent. D'ailleurs, tout le monde en parle tellement qu'on avait quasiment rien dit sur Mbappé à l'aller et que là on n'a pas dit grand-chose sur lui au retour. Maintenant, je pense que Paris vient définitivement de perdre Mbappé et que c'est pas une prestation comme ça où il te va dire ah, il y a encore une chance de négocier. C'est-à-dire que là, il va pas se dire bon, le Real c'est un club mythique mais un peu nulos. Là, tu vas dire bon, même si je pense que le Real va se faire défoncer au tour suivant s'il y a un bon adversaire, parce que je pense que cette équipe est vraiment très médiocre, mais ça va. Quand il voit ça et qu'il voit son niveau à lui, où je pense qu'en ce moment, il n'y a personne au-dessus de lui, a priori, ouais. Au monde du foot, je pense qu'il peut se dire, à moi tout seul, plus qu'il y a des gens en place, on peut gagner la Ligue des Champions. Quoi. Bon, après, il y a la question de Vinicius qui joue au même poste. Hein, mais bon, ça.
Bah, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est, bon, il joue Mbappé s'il signe au Real.
C'est vrai que s'il jouait à droite,
Vinicius, ce serait plus la question
à droite, plutôt, la question ne se poserait pas.
Non, mais la question, c'est plutôt où joue Vinicius. Hein.
Oui, bien sûr. Mais ça sera peut-être à droite. Mais
c'est vrai que t'as Benzema qui est un attaquant qui dézone à gauche, de Vinicius qui joue à gauche. Et là, ouais,
t'aurais vraiment. Il leur faudra un Caillerone à droite en fait, ouais. Juste pour mettre des têtes au deuxième poteau.
Après, ça jouera peut-être complètement différemment avec.
Il y a des chances, bien sûr.
Avec deux mecs derrière un neuf, avec deux gars derrière un neuf, ou alors en losange et bye bye Vinicius. Enfin, je sais pas. Mais bon, après,
ça sera intéressant à voir. Ce sera intéressant à observer ce qui peut se passer quand Mbappé va arriver et qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place autour de lui. En imaginant que, t'es au moins une base avec ce 4-4-2, peut-être avec Benzema et lui, quoi.
Même si
En tout cas, Eden Hazard ne jouera plus.
Oui, là, ça paraît compliqué, en effet.
À noter que. Eden Hazard a 31 ans. Il est né en 1991. Comme quoi, l'âge civil et l'âge dans les jambes, ça ne se suit pas toujours. Est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter ? Et notez quand même que Vinicius, avec Benzema et Courtois, c'est les trois joueurs qui vont offrir le titre au Real. Tout le reste étant assez oubliable malgré tout à l'échelle de la saison, mais que les trois sont assez monstrueux. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Ou est-ce qu'on dit un petit mot de l'autre match français du jour ?
Non, rebondir sur ce que disait Christophe sur le fait que le Real était assez médiocre. On a dit tout à l'heure que c'était un match des années 80. Le souci, c'est qu'on est en 2022. Et je pense que s'il tombe contre City, ou la bonne version de Liverpool, ou la bonne version du Bayern, rien qu'en termes d'intensité et de volume physique. Alors déjà, je pense que mon avis, Kroos, Modric, je suis pas sûr que les deux démarrent contre une équipe comme ça.
Valverde a pas été inintéressant pour un petit peu compenser tout ça.
Mais du coup, si t'as Casemiro et Valverde pour courir, tu peux pas avoir les deux autres. Donc, je suis curieux de voir comment Ancelotti va gérer ça.
Et tout en mettre Valverde à droite.
Oui, tu peux mettre Valverde à droite.
Tu l'as souvent fait. C'est jamais été du grand football, mais ça a son intérêt d'équilibre.
En sachant par exemple que je pense que l'Inter est une meilleure équipe que le Real. L'Inter qui est sorti, on n'a pas parlé de la double confrontation Liverpool-Inter, mais l'Inter a fait vraiment deux très bons matchs. Ils ont eu du mal à se créer des occasions, des vraies occasions, mais dans les sorties balles et l'organisation collective, c'est pas la même compétition. Là, le Real, le PSG s'est sabordé, mais le Real n'était pas non plus incroyable. Il y a des joueurs incroyables, mais collectivement, c'était assez léger par rapport au reste du plateau, sachant qu'on n'a pas encore parlé, mais des matchs qui viendront, il y a notamment Chelsea, l'Ajax qui peuvent être, je pense, mieux organisés aussi que le Real et plus dynamiques.
Mais je pense sincèrement, alors peut-être que j'exagère, et puis Courtois, Benzema, c'est les deux surfaces, ça peut faire d'énormes différences. Je pense sincèrement que s'il y a Real-Liverpool, il y a 2-0-2-0, quoi. Ou 2-0-3-1, mais pour moi, il n'y a aucun. C'est pas le même sport, en fait. Je sous-estime peut-être ce Real, mais à partir du moment où les mecs sont incapables de. Enfin, tout le match aller, ils le passent devant leur but, ils font un tiers du match quasiment. Et Mbappé a je sais pas combien de buts refusés pour hors jeu sur double confrontation, ton bloc médian récupère pas les ballons, alors on leur enlève rien, et puis de toute façon on a quand même bien chanté leur louange depuis quelques minutes maintenant sur leur dernière demi-heure. Maintenant le fond du problème, ça reste que surtout le match normal, avant que ça parte sur du momentum, sur de la dynamique, le Real n'existait pas face à un Paris qui lui-même était loin d'être parfait. Donc c'est vrai que j'ai quand même envie d'avoir ce retour à la normale, comme on a vu le retour à la normale du Barça qui avait pris 3-0 face à la Juve au tour suivant après avoir fait le 6-1 contre Paris.
Petite dernière chose, je cite un tweet de Adrien Grenier qui dit « Selon la Cadena Copé, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo seraient rendus au vestiaire des arbitres pour se plaindre de la fin de match et de l'action de Benzema sur Donnarumma. Il y aurait eu des coups et la police a été appelée. »
Sachant que Nasser, il était déjà au tribunal avant-hier.
c'est son barreau d'honneur, en fait.
Et que les réquisitions n'étaient pas hyper cool pour lui. Donc,
Vous avez vu que Cristiano Ronaldo pourrait jouer aux États-Unis ?
Sur le papier, oui. Dans les faits, je pense qu'il y a un petit obstacle, en fait.
Non, je crois que c'est... Non, l'affaire a été classée, non ? Du coup,
on va pas développer, c'était juste pour vous vanner, mais techniquement il a pas mis les pieds aux États-Unis depuis
quelques années.
Ça arrivait à d'autres personnes, hein. C'est-à-dire, tu peux tourner un film et ne pas pouvoir aller aux États-Unis ou des choses comme ça. Florent, on a vu rapidement le match, alors on est déjà à plus d'une heure, mais tant qu'on a vu le match et qu'on était content que ça ait lieu un mercredi pour en parler rapidement. Match de Lyon, on ne parlera pas de le reste, on le verra la semaine prochaine, notamment le dernier club français en Ligue des Champions, le LOSC, je le dis parce qu'on ne pourra plus le dire très bientôt. Donc Lyon qui a battu Porto 1-0, et ce qui était un match plutôt sympa, alors pas, enfin c'est pour moi, ça sentait quand même un peu l'aspect C3, mais c'était de la bonne C3, je trouvais.
Ouais, c'était de la bonne C3 avec deux équipes avec de la qualité, comme dirait Luis Fernandez. Non, plus sérieusement, c'est un match qui était intéressant sur pas mal d'aspects. Déjà le jeu côté Porto et le choix quand même de Conceição en début de partie de jouer en 5-4-1, contrairement aux commentateurs d'RMC qui ont vu un 4-4-2 pendant tout le match. Voilà, c'était pas du tout un 4-4-2, c'était un 5-4-1 qui visait sans doute à fermer l'axe aux Lyonnais et à laisser volontairement le ballon dans les pieds des joueurs de couloir à Lyon, sauf que Lyon avait une solution notamment pour progresser côté droit, où on trouvait Dubois et ensuite Dubois pouvait trouver Fèvre et tu pouvais rentrer dans le camp adverse. Mais en fait, c'était un match assez équilibré des deux côtés, c'est-à-dire que Porto avait quand même pas mal de qualités techniques au milieu, entre Vitinha, Otavio et je sais plus lequel était qui jouait un cran plus haut, mais que j'avais trouvé très bon aussi. Mais dans les petits espaces pour combiner, etc., c'est vraiment une
Uribe.
Très très bonne équipe. Non, Uribe jouait plus bas, justement. C'est lui qui descendait dans la ligne Aquino. De 5.
En gros, il y avait Otavio, Vitinha, Uribe, Aquino, Evan Nilsson, Taremi. Je t'avoue que je n'écoutais...
Ça doit être Aquino, alors.
C'est que d'une oreille, le fait que tu égrènes, j'étais déjà perdu sur autre chose. Vas-y, reprends.
Mais toujours est-il qu'il y a eu des occasions des deux côtés. Lyon aurait pu ouvrir le score par Toko Ekambi. Porto a eu pas mal de tirs de loin qui ont forcé Lopez à des arrêts, notamment sur un lob de Vitinha en tout début de partie. Et la bascule en deuxième mi-temps, il y a cette blessure de Pep, alors dès la première minute, mais il sort à la mi-temps avec le choc suite au choc avec Paqueta. Et Porto finalement passe à 4 derrière en deuxième mi-temps et ça a un petit peu ouvert le match côté lyonnais. Et ça a permis notamment à Toko Ekambi qui était un petit peu... pris dans la ligne de 5 défensive de Porto d'exister un peu plus, et c'est sur une de ses actions où il prend le dessus sur son vis-à-vis sur la prise de balle au milieu de terrain, et puis ensuite il va gagner son duel avec Mbemba qui est un petit peu nonchalant après avoir pourtant remporté le premier duel, il la repère et finalement ça finit sur le but de Paqueta. Et après par contre c'est vrai que tu te dis bon ben 1-0, il y a une bonne opération qui est faite pour les Lyonnais, mais en fait, sur les dernières minutes, on voit le 4-4-2 de Porto. Et en fait, on voit que si Lyon ne presse pas, Porto trouve très facilement des situations où ils lancent en profondeur leurs attaquants. Et leurs attaquants se retrouvent avec des 1 contre 1 à jouer face à la défense lyonnaise. Et c'est vrai que les dernières minutes sont un petit peu difficiles pour les Lyonnais. Et je me dis qu'en vue du match retour... Alors ça risque de donner un match très ouvert, parce que du coup Lyon aura aussi des opportunités dans l'autre sens, mais je me dis que si Porto démarre en 4-4-2, il risque d'y avoir un sacré match, et un sacré taf quand même pour la défense lyonnaise, pour tenir cet avantage et garder le score. Mais ouais, match très plaisant, et je pense, voilà, par rapport à ce que je viens de dire, que le retour sera tout aussi intéressant.
Et à noter, ça m'y fait penser... que c'est vrai qu'on l'avait pas mentionné dans le dernier épisode sur le 11 potentiel hors PSG des meilleurs joueurs, mais un Loukeba par exemple aurait pu avoir sa place en défense centrale, et encore ce soir tu te rends compte que, alors peut-être un moment où il va atteindre le plafond, mais c'est lui qui, alors logiquement, hein, potentiellement, parce que son binôme Mendes c'est pas un défenseur, donc c'est peut-être un peu logique qu'il tienne la défense, mais en tout cas match qui confirme des qualités qui... j'ai l'impression, intrinsèquement, sont peut-être même supérieures à celles d'Umtiti, si tu prends vraiment tout le package, en tout cas au même âge, à voir après le développement. Ouais.
Mendes aussi a été très bon, faut le signaler derrière, et Kakré aussi au milieu. Enfin, Kakré et Ndombele ont aussi fait leur match, Kakré notamment qui termine à 12 tacles tentés.
Ouais, il a beaucoup ratissé.
Encore un volume hallucinant. Dès les premières minutes, je crois qu'il doit ratisser 3-4 ballons sur une séquence positive de Lyon qui est dans le camp adverse. Ouais, gros match de sa part, Ndombele aussi. Fèvre, on l'a vu en première, et c'était aussi dû à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'organisation de Porto et la Lyon qui avait ce couloir droit pour progresser, donc il a touché beaucoup de ballons, mais pas tant de réussite que ça quand même dans ses tentatives. Je crois qu'il termine à 2 dribbles réussis sur 7 ou 8 sur l'ensemble du match. Paqueta un peu alternatif, Toko aussi, Dembélé aussi. Lyon un peu plombé quand même par ses problèmes à la finition pendant une partie du match. C'est pour ça qu'ils peuvent aussi espérer avoir d'autres occasions au retour. Mais non, c'était équilibré. Ils ont un avantage, mais il est clairement pas définitif de mon point de vue, quoi.
Allez, juste avant de dire, Raphaël, encore un, deux ou trois mots sur Inter, tant qu'à faire, on n'est pas à 3 minutes près, il n'y a plus de séquence Paris. On faisait 1h20 d'habitude, on va pousser encore un tout petit peu. Moi, je vais juste dire un petit mot de l'autre match. Bon, City-Lisbonne, on ne l'a pas regardé, ça a fait 0-0. Guardiola a changé de gardien à l'heure de jeu pour faire entrer Carson, qui n'avait pas joué un match de Ligue des Champions depuis 16 ans, donc ça vous situe un petit peu l'enjeu du match. Après le 5-0 de l'aller. Mais moi, j'ai du coup vu le Bayern qui met 7-1 à Salzbourg. Bah, en fait, juste pour dire qu'on a vu finalement un peu le mauvais côté du losange qui presse, de l'intensité de Salzbourg, etc. C'est-à-dire que tu es un peu un peu un ping-pong permanent, si possible. Sauf que là, Salzbourg n'a pas mis ses occasions. Et le losange, quand tu n'as pas la balle et que l'adversaire arrive à sortir du pressing. C'est quand même assez compliqué parce que derrière, tu as beaucoup de zones à couvrir. Et puis, le différentiel de niveau qui est quand même assez colossal. Mais n'empêche que, pour éviter d'être un peu pris dans la tenaille du losange, alors dans tous les cas, Nagelsmann aime bien être à 3 derrière. Mais du coup, le losange qui se cale bien sur les relances où tu as 2 centraux, un 6, parce que du coup, les 2 centraux sont suivis par les attaquants, le 6 par le numéro 10 adverse, etc. Là, du coup, c'était un 3-2-4-1, comme au match aller, avec Pavard, Süle et Hernandez en défense centrale, Kimmich, Moussiala, déjà en plus le double pivot, t'as Moussiala qui est quand même un mec assez offensif, et sinon tes pistons c'est Coman et Gnabry, Müller, Sané dans l'axe et Lewandowski en pointe. C'est hyper risqué, mais une fois que tu arrives à sauter le pressing adverse, en fait, il y a quand même un petit côté. En gros, le Guardiola qui jouait certains matchs de Ligue des Champions avec le Bayern, notamment face à la Roma, où pareil, ils font que attaquer, donc du coup, la question d'avoir que des offensifs limite se pose pas. Et honnêtement, match assez sympa qui. Alors ça m'a rendu un peu triste pour Salzbourg de voir cette équipe exploser comme ça, mais c'est pas la première fois, et qui confirme que les matchs du Bayern avec Nagelsmann vont, je pense, rester fun jusqu'au bout, parce que comme Flick, il va toujours prendre le parti de faire péter l'adversaire par l'offensive et pas par la défensive. Et donc s'il y a un Bayern Dortmund, Bayern Liverpool, par exemple, des matchs comme ça de très haut niveau, ou un Bayern Ajax, je pense qu'on peut beaucoup s'amuser. Raphaël, juste comme ça, dire un petit mot, parce que c'était peut-être le match le plus équilibré sur les matchs de très haut niveau, finalement, le match entre l'Inter et Liverpool sur l'aller-retour. C'est-à-dire que c'était vraiment tactique, mais de la bonne tactique, quoi.
Ouais, non, mais l'Inter était. Après, l'Inter d'Inzaghi a repris pas mal des choses de Conte, notamment dans les sorties de balle, où on retrouve pas exactement les mêmes circuits, mais on retrouve cette volonté d'attirer le pressing adverse pour ensuite avoir de la profondeur à attaquer. Le souci de l'Inter, c'est que quand t'attaques la profondeur avec Lautaro et Alexis Sanchez contre Van Dijk, Matip, bah, c'est pas simple. Il y a même, je sais pas si vous avez vu l'image, il y a un ballon un peu long à un moment d'un joueur de l'Inter pour Lautaro dans la profondeur.
Il n'y va pas,
Et là, Lautaro voit Van Dijk arriver et il baisse les bras, genre, bon, bah, ok, bon, ça sert à rien, quoi. C'est comme si tu me demandes d'aller dunker. Je vais dire, mais non. Enfin, regarde le panier, regarde-moi. Ce n'est pas possible. Et du coup, c'était un peu frustrant pour l'Inter parce que collectivement, je pense qu'ils font deux matchs plus réussis que Liverpool. Mais ils ont beaucoup de mal à transformer cette qualité de circulation de balle et ces sorties de balle en occasion, et d'ailleurs sur l'ensemble de la confrontation, il me semble que Liverpool est devant XG, mais assez largement, plus qu'il ne le devrait vu ce qu'ils ont fait collectivement. Mais non, l'Inter, j'ai vraiment bien aimé. Après, il leur manque un peu de qualité à l'intérieur du jeu pour être plus créatif, même si Vidal Brozovic et Çalhanoğlu ont été bons, mais ça manque un petit peu de joueurs capables de porter le ballon et d'aller faire des différences, pourquoi pas balle au pied, et Alexis Lautaro devant. Ont beaucoup couru. Lautaro a marqué un but magnifique avec Van Dijk qui est en recul frein mais qui est trop loin de Martinez, donc il ouvre un angle de frappe. Mais par contre, voilà, y a pas de menace dans la profondeur. Et puis, quand même, le regret de ne pas avoir vu Dzeko du tout du match retour, alors que l'Inter mène 1-0. Le regret aussi, c'est qu'Alexis Sanchez prend un rouge mérité, parce que c'est au moins sa troisième faute où il aurait dû prendre jaune, mais prend un rouge juste après l'ouverture du score de Lautaro. Et l'Inter, à ce moment-là, aurait vraiment pu, je pense, emballer le match et pourquoi pas faire un coup en field. Mais très très belle équipe, et du coup, alors j'ai pas vu beaucoup d'autres matchs du championnat italien, mais s'il y a une équipe meilleure que cette année en Serie A, c'est assez impressionnant. Donc je sais pas s'ils vont être champions, mais en tout cas, ce qu'ils ont proposé, c'était top. Et puis je vois que c'est très serré en Serie A, et j'ai une crainte, je sais pas si elle est justifiée parce que je ne les vois pas jouer, mais je sais qu'ils sont sur une très belle série. J'ai la terrible crainte que la Juve d'Allegri fasse une remontée incroyable et finisse championne.
Bah, ils ont un cheat code maintenant, ils ont Vlahovic qui te permet de faire
oui.
comme les équipes, l'Atlético, Chelsea, c'est avec Diego Costa, c'est-à-dire le mec tout seul peut se débrouiller face à 3 ou 4 défenseurs, du coup on peut n'attaquer qu'à 3 et rester dangereux.
Voilà, il part de loin, quand même. On avait écrit sur lui, sur Coparena, en début de saison, quand la Fiorentina marchait très bien.
C'est ça.
Oui.
Qu'il soit parti. Il est très, très, très fort. On va pas se mentir. Mais c'est l'attaquant en plus parfait pour la Juve, quoi. C'est vraiment le mec. Il a pas besoin de soutien pour combiner ou autre. Il sait le faire, mais tu lui balances devant et puis il va gagner le duel à l'épaule. Il va partir. Il va toujours se mettre en position de frappe. Mais je pense qu'il parte d'un peu loin. Je le souhaite cette Juve-là, compliqué, quoi.
Il reste qui comme équipe italienne en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe? Il y a la Juve contre Villarreal. La Roma, ils en sont où?
Ils jouent la C4, là.
Oui.
Ils ont terminé premier du groupe, juste devant Bodo Glimt, qui est passé en barrage.
Et la Talanta a un retour
contre... Non, un aller non, contre ben... le...
Non, un aller, Bayer, ouais, Leverkusen. C'est lui. Ah oui, ils ont sorti l'Olympiakos.
C'est ça. Après, la Talanta, la moitié de l'équipe est blessée. Hein, donc, ils ont beaucoup de mal en championnat et ils n'ont plus d'attaquants.
Dommage parce que la Serie A est bien disputée, le Milan revient bien depuis quelques années, Naples ça tient, mais en Coupe d'Europe, je suis pas sûr qu'ils vont avoir beaucoup de représentants en quart de finale.
Ben oui, malheureusement, je pense que oui. Florent, petit point Coparena avant qu'on se quitte, puisque c'est un peu notre actu principal, et maintenant ce podcast est également hébergé sur Coparena. Qu'est-ce qu'il se passe en ce moment et qu'est-ce qu'il va se passer dans les prochains jours?
Alors, qu'est-ce qu'il se passe en ce moment? Déjà, côté technique, maintenant, vous pouvez choisir de vous abonner pour un an d'un coup. Voilà, soit vous êtes un nouvel abonné et vous nous faites confiance. Et du coup, l'abonnement d'un an est à 36€, donc ça revient à 3€ par mois, au lieu de 3,99€. Voilà, donc si vous êtes déjà abonné et que vous voulez faire la bascule et passer à l'abonnement annuel, il suffit d'aller sur le site de Coparena, vous rentrez sur votre profil et vous aurez l'occasion, enfin il y a un bouton qui permet de switcher d'un abonnement à l'autre et de prendre cet abo annuel, donc il vous fait économiser 25% du coup du prix de l'abonnement sur un an. Sinon, à part ça, vous pouvez écouter depuis ce mercredi, donc depuis hier, parce que vous allez nous écouter jeudi, le projet de jeu que Christophe t'a enregistré avec Jordan Gonzalez et Erwan Lanuzel, qui sont deux coachs qui évoluent en National 2, qui ont pour point commun d'être des jeunes coachs, 28 ans je crois pour Jordan, et 32 il me semble pour Erwan.
C'est un tout petit peu plus, je crois que c'est 30 et 34, mais c'est dans ces eaux-là, et sachant que Erwan Lanuzel a fait quart de finale du coup de Coupe de France avec Bergerac.
C'est ça.
Donc, voilà,
quart de finale perdu contre Versailles. Il avait sorti Metz et Saint-Etienne au tour précédent, il me semble, là aussi. Ouais. Il parle d'ailleurs de cette épopée-là et de ce qu'il a pu apprendre en croisant aussi Pascal Duprat ou Frédéric Antonetti. Il me semble bien que c'était Metz et Saint-Etienne, les deux clubs en question. Donc voilà, projet de jeu avec cette interview croisée. Il y a des analyses évidemment qui vont tomber assez rapidement de PSG-Real, enfin de ce Real PSG, même si bon, il n'y a pas 200 000 choses à analyser, mais il y aura un papier qui va sortir. Il y en aura peut-être un aussi sur Porto-Lyon, on rentrera plus en détail sur ça, sur ce qui s'est passé et sur ce qui se pourrait se passer au match retour. On se projettera plus vu que ça viendra un peu plus tard. Et ensuite, la semaine prochaine, mercredi prochain, ce sera une interview de Gauthier Larsonneur, gardien du Stade Brestois, qu'on a fait moi-même avec Julien Momont. Donc, une interview très intéressante où on parle de pas mal de choses sur le poste de gardien de but, et notamment l'aspect jeu au pied. Et c'est même Gauthier qui est directement allé sur le sujet de Paulo Lopez avec l'OM. Donc voilà, interview intéressante qui dure à peu près un peu moins d'une heure. C'est le même format que celle avec Adrien Thomasson, que vous pouvez aussi aller écouter si vous ne l'avez pas fait déjà.
Vraiment beaucoup de belles choses. Beaucoup d'entretiens, des analyses. Bientôt, une saga historique qu'on est en train de terminer d'enregistrer.
Qui sortira pendant la trêve.
Sortira pendant la trêve, voilà, sur nos amis bordelais, finalistes de la C3 à l'époque, en 1996. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné sur cet épisode riche, après un match riche en émotions. Et on se retrouve la semaine prochaine. Florent, on a fixé la date, post-Lille, post-jeudi, on ne sait pas encore.
Ça sera soit post-Lille, s'il y a exploit, sinon post-jeudi, en effet, peut-être après pour faire un bilan global et évoquer nos équipes engagées en Ligue Europa, notamment.
Ça marche. Merci Florent, merci Raphaël. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.
Ciao.
Cordialement.